Jean-Bernard Guyon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de Commodities Asset Management. On va parler avec vous de ces marchés des matières premières, d'autant plus que si on s'inquiète au jour le jour de ce qui se passe hein, sur les marchés actions, cette crise économique et financière, les matières premières, c'est peut-être une des surprises de cette année 2012. Hein, finalement, on sous-performait, sans doute des raisons qu'on va voir avec vous, mais est-ce que de votre point de vue, on a acté à travers les prix des matières premières ce qui était en train de se passer sur le plan économique?
Ben exactement. En fait, on enregistre un ralentissement économique généralisé. Les États-Unis sont en croissance très lente. Il y a même à l'heure actuelle une période un peu plus difficile. L'Europe, on connaît sa situation. Quant à la Chine, eh bien, elle est en récession. Les chiffres annoncés sont un petit peu trompeurs, puisque ce sont toujours année sur année, mais trimestre sur trimestre, on voit que la Chine est en récession depuis quelque temps.
Alors, à vous écouter, vous dites ça, quand on entend la plupart des intervenants, ils disent « Ah, mais 5-6% de croissance, c'est bien, on aimerait tous avoir cette croissance-là.
La réponse est oui, bien entendu. Mais il faut savoir que la Chine consomme, pour certaines matières premières, jusqu'à 40% de la production mondiale et qu'une réduction de la croissance de 9, 10% à 5 ou 6, par exemple, a un effet majeur sur les marchés.
» Donc, en disant effectivement ce ralentissement chinois, on avait aussi l'Inde d'ailleurs qui était aussi qui avait des chiffres moins bons sur le plan économique.
Le
Et là,
Brésil, par
la
exemple.
Chine qui consomme beaucoup de matières premières, du coup, ça a eu un impact, on va dire, sur le spectre, un spectre entier de matières premières
Ah, tout
concernées.
à fait l'ensemble. Alors, la seule matière première qui n'est pas baissée, mais pour des raisons complètement différentes, pour des raisons monétaires, c'est l'or.
Alors, ce changement-là, effectivement, on a vu la Chine réagir, pas encore complètement. Il y a eu un certain nombre de mesures. La Chine est aussi dépendante, finalement, de ce qui se passe autour d'elle, c'est-à-dire ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe. Et si ces zones ne vont pas bien, la Chine ne va pas bien.
Alors, tout le problème à ce niveau, c'est bien entendu le volume des exportations et le volume est en baisse. Mais d'un autre côté, la Chine a commencé à prendre un certain nombre de mesures. Elle estime qu'elle a stimulé l'économie trop fortement en 2009 et ne veut pas répéter la même erreur. Donc, c'est une stimulation qui est progressive et répartie sur un certain nombre de secteurs. Taux d'intérêt, prêts à la construction, reprise des investissements dans les chemins de fer. Enfin, il y a à l'heure actuelle, ce sont deux choses qui sont mises en place et on pense qu'on devrait aboutir à un plan de relance égal à peu près en termes de puissance à la moitié de celui de 2009.
Alors, du côté des matières premières, du côté du pétrole, on pourrait dire il y a quelques mois, on se plaignait du prix à la pompe, notamment en France, et on voyait cette flambée alors que l'économie était loin de là pas florissante. Aujourd'hui, c'est plus le cas et on voit
Oui,
les...
alors à l'époque, on constituait des stocks de précaution en raison des sanctions qui allaient être appliquées à l'Iran. Et je crois qu'aujourd'hui, d'abord l'expansion de la production dans certains pays, l'Irak, la Libye, on revient à la normale. Et puis l'Arabie Saoudite qui produit un volume le plus élevé depuis 30 ans, bah, tout simplement parce qu'elle a aussi un désir de protéger l'économie mondiale d'une récession trop profonde. Puisqu'après tout, tous ces pays qui consomment du pétrole sont les clients de l'Arabie Saoudite.
Ce qui se passe aussi aux États-Unis sur ce marché, ça a changé les choses, puisque on voit des projections où, pas tout de suite, pas immédiatement, mais où les États-Unis produiront plus de pétrole que d'autres pays, les gros producteurs actuels.
Alors, le problème des États-Unis, et c'est là un des atouts qu'ils peuvent avoir, c'est que la production de gaz a augmenté énormément, ce fameux shale gas, gaz de schiste, et cette baisse considérable des prix, amélioration des techniques, volume en forte hausse, s'est traduite aussi par une augmentation de la production de pétrole de même provenance, donc des schistes. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je crois que c'est plusieurs dizaines d'années, les Américains sont exportateurs de pétrole.
Au cours des dernières années, souvent on évoquait ces actifs, des commodities, de ces matières premières comme un actif pour se diversifier, pour profiter de ce boom des pays émergents. Aujourd'hui, en 2012, on dit quoi?
Ben, ce qu'on dit, c'est que dans le fond, on est arrivé un peu au sommet d'un cycle, et ce sommet a été touché à peu près vers 2008. Hein, et pour certaines matières premières, on est toujours dans une tendance baissière. Pour d'autres, par contre, par rapport à 2008, on a réussi à aller plus haut. Donc je crois qu'on va avoir un cycle qui va marquer une pause, et pour lequel les tendances vont être très diversifiées. Pour certains métaux, on est maintenant au prix de au coût d'extraction marginal et par conséquent les possibilités de baisse deviennent limitées. Pour d'autres métaux, il y a encore une marge importante et on pourrait subir encore des reculs.
Je voyais récemment un acteur important du secteur, BHP Billiton, oui. Qui se projetait sur non pas les prochains mois, mais à 3-5 ans, en disant que les prix de ces commodities pourraient continuer à baisser, donc pas seulement effectivement cette année, mais sur plusieurs années. C'est un scénario qui est plausible.
Oui, tout à fait, mais tout dépend encore une fois des matières premières. Et globalement, c'est probablement vrai, mais c'est très vrai par exemple pour le minerai de fer. On s'aperçoit que la production d'acier en Chine, qui avait augmenté de 10 à 15% sur les 10 dernières années, ne va plus augmenter que de 3 ou 4% pour les 10 prochaines années, en raison du ralentissement prévisible de la croissance. Et bien, dans ces conditions, on s'attend à un surplus de minerai de fer, et BHP va ralentir ses investissements simplement pour contrer la tendance à la baisse.
La Chine restera le... On va dire, c'est là peut-être où vous passez le plus de temps, l'indicateur clé de ce marché, c'est-à-dire en fonction de cette croissance économique qui repartira ou pas, du style de croissance que fera la Chine, ça donnera le là sur les matières premières.
Alors, ce sera la clé pour un certain nombre de matières premières. À titre d'exemple, la Chine consomme plus de 40% du cuivre produit dans le monde. Pour le cuivre, la Chine est vraiment l'indicateur principal. Pour d'autres matières premières où elle ne consomme que 10%, je pense au pétrole, elle n'est pas forcément un acteur qui soit le plus important.
Le secteur minier, on parlait de BHP Billiton, est-ce qu'il va y avoir des acteurs tout de même qui vont pouvoir se distinguer dans cette période-là, compte tenu de ces perspectives? Pour les investisseurs, ce ne sont pas des perspectives très encourageantes.
Non, mais il y aura toujours des sociétés qui sauront tirer leur épingle du jeu, bien entendu. Mais globalement, les valeurs liées aux matières premières devraient être des valeurs qui rentrent un petit peu dans le rang par rapport à leur comportement passé. Ça ne veut pas dire que tout est négatif.
Il pourrait y avoir des rapprochements si, effectivement, on ne croit pas par les prix des commodities?
Les rapprochements, si vous observez bien les marchés, en général, ça se produit quand les cours sont hauts et jamais quand les cours sont bas, ce qui est une erreur, mais c'est comme ça. Il y aura sans doute un certain nombre de rapprochements, en particulier le rachat par les grandes sociétés, on parlait de BHP, d'acteurs plus petits et dont les possibilités financières sont plus réduites, donc plus à risque.
On parlait de l'or tout à l'heure. Peut-être en conclusion, l'or, on l'a vu pendant les périodes de crise particulières, a joué le rôle de valeur refuge. On a vu ces graphiques assez impressionnants de cette progression des cours de l'or. Et puis là, on a vu, on va dire, une stabilité ou en tout cas pas avoir une baisse même. Est-ce que ça veut dire que ça joue effectivement ce rôle de valeur refuge, mais ça a un temps seulement?
Non, je crois que l'or va continuer à jouer le rôle de valeur refuge, ne serait-ce que pour des raisons monétaires. Le débasement de toutes les monnaies par rapport à l'or est évident, donc l'or va continuer à bien se tenir. Mais dans certaines périodes de crise financière, l'or sert de source de cash. Donc je crois que la tendance va être modérément haussière, mais en termes relatifs par rapport aux autres matières premières, ce sera encore le produit que je favoriserai aujourd'hui, et c'est le produit qui a été favorisé depuis à peu près un an.
Donc ça reste un actif tout à fait valable. Merci Jean-Bernard Guyon d'avoir fait le point avec nous. On rappelle, vous êtes donc le vice-président de Commodities Asset Management.